Philosorire, une émission philosophique où ceux qui ne savent rien en savent toujours autant que ceux qui n'en savent pas plus qu'eux. Allez, bonjour à toutes et tous pour cette 18e émission de Philosorire. C'est toujours votre serviteur, Jean-Antoine Baudricourt, qui est au micro, accompagné de notre fée clochette aux manettes. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les studios, mais nous sommes à Meaux, au Lanzaribouc. Merci à Mohamed et Véronique de nous accueillir pour une deuxième session.
Oui.
Voilà. Alors, Lanzaribouc, c'est un café culturel où on peut boire du thé, du café, on peut acheter des livres, on peut travailler. Il y a des livres d'occasion, il y a des livres neufs. C'est à Meaux, c'est rue Saint-Rémy, c'est ça, à Meaux. Allez, je vous conseille de venir, c'est une belle découverte à faire. Alors le thème du jour, c'est l'argent. Tout le monde a une petite idée sur l'argent. Hein. L'argent, c'est le bonheur, l'argent, c'est le désir, l'argent, c'est le pouvoir qu'il peut procurer. Sophocle, dans Antigone, disait « L'argent a le fléau des humains ». Jean-Jacques Rousseau, dans Les Confessions, disait « L'argent qu'on possède est l'instrument de la liberté, celui qu'on pourchasse est celui de la servitude ». Woody Allen pense que l'argent est plus utile que la pauvreté, ne serait-ce que pour des questions financières. Pour nous éclairer sur ce thème, j'ai invité aujourd'hui deux éminents spécialistes de la question. D'abord Jean-Philippe Pèze.
Bonsoir.
Bonsoir monsieur. Alors vous êtes licencié en économie-gestion, analyste financier au Crédit Agricole du Nord de la France, à Béthune.
Tout à fait.
9 rue Grosse Tête, ça ne monte pas évidemment.
Ça ne monte pas évidemment.
Au 6400 Béthune.
Et l'adresse est exacte, bravo monsieur Baudricourt. Vous êtes, je vois, bien informé.
Mais bien sûr, c'est mon travail. Vous venez tout juste de déposer un projet à la maison mère du Crédit Agricole, 91 boulevard Pasteur, 75 015 Paris. En fait, vous faites de la promo...
Disons que je suis un homme précis.
Pour votre employeur, quoi.
Je suis un homme précis.
Un peu de pub pour l'employeur, ça ne peut pas faire de mal. Allez, dans le cadre d'un mécénat au profit de l'association Picardie Nature, hein, vous avez déposé ce projet-là. C'est un projet qui est axé sur la surveillance des jeunes phoques sur la côte Picarde lorsqu'ils attendent seuls
le retour de leur mère
sur un banc de sable. Et risquent ainsi leur peau très convoitée pour la fabrication des porte-monnaies très extensibles à l'usage des gros portefeuilles.
Voilà, il faut savoir, mesdames et messieurs, que la peau de phoque est très extensible et que les gros portefeuilles aiment à utiliser la peau de phoque. Et donc, moi, je les défends.
Mais les petits porte-monnaies aussi?
Alors les petits porte-monnaies, c'est autre chose, c'est de la peau des hérissons, c'est de la peau de... Vous voyez ce que je veux dire, ça pique.
Oui,
oui d'accord.
Un portefeuille de ministre, c'est voilà, un portefeuille en peau de phoque.
D'accord, on a compris. Ensuite, vous avez écrit deux essais.
Ah oui.
Où s'envole l'argent des bourses quand il n'est plus pris en compte?
Eh oui, c'est une question.
Et un autre essai qui s'appelle « Cryptographie d'un rejeton numérique ». Ou les causes d'un droit à l'avortement du porte-monnaie en cuir de vachette véritable.
Et oui, nos grands-parents avaient des porte-monnaies en cuir de vachette, mais aujourd'hui, avec la crypto-monnaie, tout ça s'envole.
Hein. Aïe, aïe, aïe.
D'où mon essai sur l'avortement. Des porte-monnaies en cuir de vachette, je vous remercie pour cette présentation excellente, monsieur Baudricourt.
Alors ensuite, pour apporter la contradiction, on a l'inégalable, l'incontournable philosophe maison, Alibert Armand-Guédon.
Bonsoir chères auditrices, bonsoir chers auditeurs, bonsoir bon. Monsieur Baudricourt.
Bonsoir. Alors vous êtes toujours professeur de philosophie, mais numérique cette fois.
Professeur de philosophie numéraire.
Ah, numéraire.
Numéraire.
Ah,
oui.
C'est une coquille que j'ai là.
Oui, numéraire.
Que j'ai sur ma feuille. Alors vous êtes professeur de philosophie numéraire. Vous êtes maître de conférence à la faculté de pensée en Ille-et-Vilaine, évidemment.
Oui.
Et vous avez écrit comme bouquin L'argent liquide. Et de l'espèce en voie de disparition.
Tout à fait.
Qui sait cultiver l'oseille récolte du blé.
Tout à fait.
Et si Dieu a créé l'homme, l'argent a créé l'humanité. Et tout ça aux éditions Prosper Cossu.
Voilà.
C'est une petite maison d'édition.
C'est une petite maison d'édition, Prosper et Cossu. Et je tiens à signaler...
C'est pas une maison qui a l'argentière ?
Tout à fait.
Ah oui.
Je vois que monsieur est un connaisseur.
Ouais, voilà.
Et je tiens à signaler que moi aussi, je suis licencié de différentes banques dans lesquelles j'ai travaillé avant.
Ah Nous sommes très heureux de le savoir.
Ouais, comme à chaque fois, je vais vous poser trois questions, puisque c'est l'essence même de notre émission. Hein. Ouais, trois questions, deux philosophes et une réflexion autour d'un thème donné. C'est un peu l'essence de cette émission. Première question. Est-ce que mettre de l'argent de côté pour l'avoir devant soi est, paradoxale qu'elle soit, une façon comme une autre d'assurer ses arrières à effet de ne pas l'avoir dans le dos? Qui veut démarrer? Monsieur l'invité. Allez, monsieur Jean-Philippe Pèze.
Très bien.
Allez-y, monsieur.
On va répéter la question parce qu'elle est un peu longue et puis c'est pas évident pour l'auditeur d'entendre déjà. Donc, est-ce que mettre de l'argent de côté pour l'avoir devant soi est, pour paradoxale qu'elle soit, une façon comme une autre d'assurer ses arrières à effet de ne pas l'avoir dans le dos? Eh bien,
voilà.
Je dirais que mettre quelque chose de côté nécessite, pour l'avoir devant soi, de se tourner vers cette chose, d'opérer une volte-face, un changement brusque et total d'opinion, donc, ou voire d'attitude, d'être non plus cette personne qui avance franchement devant lui, mais celui qui désormais se déplacera en crabe et observera le monde de côté, pour ainsi dire, de travers. Hein ? Assurer ses arrières avec ce mode de mise en marche reste, à mon humble avis, difficile, au vu et au su de tout un chacun, surtout lorsque vous voulez faire naître, comme ici, l'illusion d'une réserve sans fond de votre capital. J'y vois, moi, une prise de risque dans la façon d'aborder les besoins pécuniers. Car premièrement, il faut maîtriser les flux et reflux souvent tendus des marchés, et deuxièmement, cela entraîne justement le fait de surveiller ses arrières, et comme vous vous tournez, vous risquez non pas de l'avoir dans le dos, mais bel et bien en pleine face. Lorsque vous retournant à nouveau, tout aura disparu au profit d'autres arrière-trains, hein, si je me fais bien comprendre.
Alors,
croyez-moi ou pas, beaucoup d'entre nous pleurent un jour ou l'autre de ne pas être resté droit. Tout a un prix, mais tout n'est pas à vendre, messieurs. Et pour conclure, je dirais que ce qui ne vaut rien n'a pas de prix.
Ah oui,
c'est définitif.
C'est clair.
J'ai l'impression, cher confrère, en vous écoutant, que j'ai fait un tour de 380 degrés sur moi-même, là.
Mais vous êtes le hibou de ces poids pour moi, monsieur Guédon.
Hibou.
Enfin, vous êtes perché.
C'était perché ce que vous avez dit.
Est-ce qu'à ce moment-là, pour mettre de l'argent de côté, il faut être plusieurs? Un qui est devant, un qui est derrière.
Bah écoutez, là, vous me posez une colle.
Pour ne pas l'avoir dans le dos.
Bah, effectivement, c'est quelque chose auquel j'aurais pu réfléchir.
Ah ben oui, quelqu'un qui avance, quelqu'un qui recule, et voilà.
C'est vrai, monsieur Baudricourt, vous m'ouvrez une brèche, là, dans l'esprit. Je crois qu'on pourrait faire une deuxième émission.
C'est le capitalisme social, on partage à plusieurs, un qui est devant, un qui est derrière, à gauche, à droite.
Mais ce serait déjà pas si mal.
On ramasse l'argent de tous les côtés.
Et plutôt que de garder pour soi.
Je rappelle à monsieur Baudricourt qu'il est le présentateur, et les philosophes, c'est nous.
Monsieur Guédon a envie de répondre.
Il n'est pas interdit quand même.
Ah non, mais tout le monde est philosophe.
Présentateur.
Tout le monde est philosophe, il suffit de penser. Hein. Ça vient tout seul. Hein.
C'est... Ben oui,
mais oui,
bien sûr, évidemment, tout le monde est philosophe. Je n'aime pas trop ce pic. Monsieur Armand Guédon. Bon, allez, je vous donne la parole quand même.
Ah ben merci. Alors moi, avant de répondre à votre question...
Ah ben non, ben si, vous répondez si, directement. Non,
avant de répondre,
faire autre chose déjà.
Non, monsieur Baudricourt, laissez-moi. Je n'ai pas encore commencé. Vous allez me dire que c'est trop long et vous me laissez commencer. Laissez-moi commencer avant de finir. Donc, avant de répondre à cette question, définissons, si vous le voulez bien, et d'ailleurs même si vous ne le voulez pas.
D'accord, mais c'est votre
étymologique. L'étymologique du mot argent. Alors, l'étymologique, c'est un condensé de étymologie et de logique.
Voilà. Donc, c'est un truc que vous avez inventé.
Oui, je suis
parce que j'ai pas
créateur,
vu ça dans le dictionnaire.
Créateur.
Parce que je suis peut-être pas philosophe, mais vous savez pas parler français.
Non, je parle pas français, je parle philosophe.
D'accord.
Donc laissez-moi terminer. Donc le mot argent est composé de deux fixes. Et là, nous ne touchons pas un fixe, mais deux. Deux fixes, un préfixe et un suffixe. Le préfixe « ar », hein, moyen d'obtenir un résultat par l'effet d'aptitude naturelle, avec l'ensemble de nos conséquences, les règles d'action, bien sûr, et puis aussi lié à un idéal artistique. Et du suffixe « gen », qui veut dire « personne ». Mais alors, pas « personne » comme « personne ». « Personne » comme « quelqu'un ». Hein, une personne. Donc, « argent », »,« argent » veut dire « c'est l'art pour les gens » de pratiquer un savoir-faire pour se débrouiller à gagner du fric en petite ou grande quantité.
Voilà. Et maintenant, pour répondre à votre question, cher monsieur Baudricourt, je dirais que la première chose à faire pour avoir de l'argent devant soi, c'est d'en mettre à gauche.
Oh.
Si, si, c'est d'épargner.
Mais... Trop facile.
Non, c'est vrai.
Est-ce qu'il faut être à droite pour en mettre à gauche?
Bonne question. Oui, bien sûr, tout à fait. Hein, sinon, c'est... Donc, la première chose à faire, c'est d'épargner votre argent pour, à votre tour, être épargné par la misère. Et si la misère vous épargne, chers messieurs, c'est pour vous mettre de côté pour plus tard, quand vous n'aurez plus un rond, sauf celui que vous ferez dans l'eau en pleurant sur votre déconfiture, parce que vous n'aurez plus de radis pour accompagner le beurre que vous ne mettrez plus dans vos épinards. Donc, plutôt que d'économiser sous un matelas ou dans un bas de laine, il est capital de capitaliser dans une valeur sûre comme l'or. Comme cela, en cas de dévaluation, au lieu de l'avoir dans le dos, vous l'aurez dans l'écu. L'écu d'or, qui est, comme on dit, un placement de père de famille. L'or est conseillé parce que l'argent liquide, par définition, n'est pas une épargne solide. Puisqu'il est liquide.
L'argent liquide, on est d'accord. Il faut un porte-monnaie étanche.
Mais attention, là je donne un petit conseil à tous ces financiers. Évitez de vous contenter de rouler sur l'or. Parce que si vous vous contentez de rouler dessus l'or au lieu de le mettre dans vos poches, vous risquez de vous retrouver sur la paille avant d'avoir eu le temps d'être riche. Alors, sans parler des avares...
Il y a des pailles d'or, hein.
Sans parler des avares, même si, comme le confirmeront les hématologistes, chez l'humain, l'avarice est dans le sang. Je dis que mettre de l'argent de côté pour en avoir devant soi dénote un certain manque de confiance dans l'avenir. Une peur non affirmée d'une détresse matérielle dans le futur de notre société, malmenée par l'incompétence de nos dirigeants. On se crée donc une garantie qui peut être illusoire au gré des dévaluations, des krachs boursiers ou du destin, pour éviter de se retrouver démuni en cas de faillite personnelle. Le paradoxe avec l'argent, c'est que lorsqu'on n'en a pas, on a peur de ne pas pouvoir en gagner. Et quand on en a, on a peur de pouvoir le perdre. Alors je pose la question.
Ah ben non, c'est moi qui pose les questions. Je ne vais pas vous répondre.
Non, mais elle est rapide.
Hein. D'accord.
Alors c'est moi qui pose la question, parce que c'est moi le philosophe quand même. Donc, et le bonheur dans tout ça? Moi, en tout cas, je suis sûr d'une chose, c'est que l'argent des autres ne fait pas mon bonheur. Et que le luxe de ma pauvreté, c'est avoir de l'argent. Épargner est un réflexe héréditaire, financièrement humain, et personne n'y échappe. À part, bien sûr, les serial killers et les va-t-en-guerre, qui sont souvent les mêmes, et qui, eux, n'épargnent rien ni personne. Et je termine là-dessus.
Voilà. Très bien, très bien. Et est-ce que dans la salle, vous avez compris la démonstration de Ali Bérard Manguédon?
J'ai compris que l'ordure.
L'ordure, bien sûr. L'ordure. Moi, j'ai compris que l'argent, c'est une question de cuisine. Il y a des radis, on met des épinards.
Monsieur a raison,
et on fait sa cuisine.
Dès qu'on parle d'argent, il y a de l'ordure. Enfin, je veux dire, un placement, bien sûr.
Monsieur Guédon, je dirais, est l'écureuil de ces bois. L'épargnant, n'est-ce pas qui nous épargne rien du tout. Mais
les petites noisettes sont bien au chaud. Oui, tout à fait, comme tout
par
le...
Contre, bravo,
oui,
bravo pour votre...
Allez, on va avancer.
Allez, votre, cher camarade.
On va avancer dans cette émission.
Avançons.
Dans l'argent.
Avançons, oui, bien sûr.
Alors, deuxième question. Est-ce qu'à force de jeter l'argent par la fenêtre, on peut se retrouver sur le carreau?
La question est perfide.
Elles sont là pour vous faire réfléchir, les questions. Évidemment, sans quoi ça n'a pas d'intérêt.
Donc je...
Non, allez-y, cher confrère.
Oui, mais allez-y, monsieur Pèze.
Bien sûr.
Regard
noir.
Jean-Philippe. Allez, Jean-Fifi.
Alors, Jean-Philippe Pèze, donc...
Monsieur Pèze.
Monsieur Pèze répondra que jeter son argent par la fenêtre ou encore brûler la chandelle par les deux bouts équivaut à ne pas être économe. Et l'on sait bien à quoi sert un économe, à éplucher les patates, bien sûr.
Ah ben vous aussi, vous êtes dans la cuisine.
Ici, dans le cas présent, notre économe fait de grosses pelures, ne se soucie pas des lendemains qui ne chanteront plus. Se retrouvera-t-il sur le carreau pour autant? Sûrement, mais sait-on bien de quelle fenêtre on parle ici? Est-ce pour changer de fenêtre et ainsi faire des économies de chauffage que notre économe mise tout son argent sur la qualité du carreau? Ou bien Ses fenêtres à simple vitrage lui suffisent-ils à vivre avec un gilet de sauvetage pécunier ? Dort-il sur un matelas plein de billets ou sa couche est-elle pleine de dettes ? Ce qui est jouissif, hein, toujours du mal avec ce mot, jouissif, ici à mon humble avis, hein, c'est le fait que pauvres comme richissimes peuvent jeter leur argent par les fenêtres et peuvent ainsi se retrouver sur le carreau. Ce qui, convenons-en, tombe à pic car le cœur ne se trouve pas sous un trèfle. Pour conclure, ma chute se trouve entre le carreau et la fenêtre, bien entendu. Parce qu'à bien y réfléchir, jusqu'ici, pour la plupart des gens, tout va bien. Si l'on se tient à un carreau, que son argent est dans ses poches et qu'on n'a pas décidé de tout jeter par la fenêtre, bien entendu. Mais à bon entraideur, salut.
Ah oui,
à bon entraideur. Vous l'avez compris.
Oui, bien sûr.
Je suis content
tout le monde sait que les traders sont les aventuriers d'aujourd'hui, ce sont des hommes d'action.
Mais je fais peu de blagues et je m'en tire pas trop mal. Là, ça va.
Oui, c'est pas mal.
Merci.
Allez, monsieur Alibert.
Eh bien, je vais être bref.
Ça m'étonnerait.
Comme d'habitude.
On vous connaît.
Le sarcasme, hein, ça c'est terrible. Alors la première chose à faire avant de jeter son argent par la fenêtre est de s'assurer que celle-ci est bien ouverte.
C'est vrai.
N'est-ce pas ? La personne qui jette l'argent par la fenêtre se dépense à le gagner et gagne à le dépenser. Il gagne du plaisir. Le plaisir de dépenser son argent. Car à la différence de l'économe ou du radin qui se nourrit que de radis, il sait qu'il n'emportera pas son argent dans la tombe. Et il jouit, on en revient à ce mot, monsieur, on en rejoint, il jouit du temps présent car il sait que le temps, c'est de l'argent et que l'instant présent est le meilleur rapport à la vie. L'essence même de l'argent, c'est d'être gagné pour être dépensé. Et dépenser sans compter et rapidement l'argent que vous avez gagné dénote quelque part une tendance philosophique, oui messieurs, à vouloir profiter instantanément de la vie, sans souci des lendemains qui déchantent. Moi-même, quand je gagne un peu d'argent, j'ai dépensé de dépenses instantanées. Ceux qui jettent l'argent par la fenêtre sont souvent démunis. Enfin, des nantis. Des gens bien munis qui ne risquent pas, eux, de se retrouver sur le carreau de ceux qui sont démunis, ceux qui n'ont pas d'argent, et même parfois pas de fenêtre, même pas un matelas pour y cacher leur bas de laine. Il est un fait dans notre société que la misère arrive toujours plus facilement que la richesse. Alors oui, si vous vous en sentez le besoin, jetez l'argent par la fenêtre, mais avec modération. Jetez-le par la fenêtre, mais seulement si vous habitez au rez-de-chaussée. Autre petit conseil, évitez de jeter l'argent par une fenêtre de salle de bain. Souvent, le sol est en carreau. Jetez l'argent d'une fenêtre où le sol est en parquet. Vous éviterez ainsi de vous retrouver sur le carreau. Attention, dernier conseil, ne jetez jamais d'argent sale par la fenêtre. Là, vous risquez de vous retrouver au parquet avant de finir sur le carreau.
D'accord. Ah, c'est beau, c'est beau. La
conclusion est pas mal.
La conclusion est pas mal.
Parce qu'au milieu, il y avait un petit creux quand même.
Monsieur, c'est bien, moi, c'est pas mal.
C'est pas mal.
Je vous rappelle que je suis philosophe de la maison pour me faire de la publicité, monsieur.
Bien sûr. Non, mais à force.
Voilà, c'est la qualité d'RVM, là.
Vous parlez de l'essence même de l'argent, ça brûle.
L'essence. L'argent brûle les doigts, hein.
Non, mais
les sens se trouvent au bout des doigts, hein, c'est un des cinq sens. Hein.
La question, c'était aussi, on jette l'argent par la fenêtre parce qu'on est riche, parce que les gens avaient beaucoup de fenêtres. Les riches avaient beaucoup de fenêtres, les pauvres n'avaient pas
de
fenêtres.
Tout à fait,
suivant le nombre de fenêtres qu'on avait. Donc, des choses pour les philosophes, ça aurait été de le dire.
Écoutez, si vous voulez...
C'est vrai qu'à une époque, on bouchait ses fenêtres pour ne pas payer l'impôt
sur la fenêtre. Monsieur Baudricourt, si vous souhaitez qu'on parle de certaines choses bien précises, il faut nous le dire. Si vous nous dirigez notre pensée, excusez-nous, mais vous posez la question...
De penser dans l'île Vilaine, je dirige rien.
Ah oui, merci.
Allez, troisième question ?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Est-ce que plus on a d'argent et moins on a de principes ? Jean-Philippe Pèze.
Chacun mon tour. Hein.
Jean-Philippe Pèze, vous avez commencé, allez-y.
Alors, est-ce que plus on a d'argent, plus moins on a de principes ?
Ben oui, bien sûr. En principe, c'est ça.
Alors, ou encore, pourrait-on se demander, est-ce que l'argent remplace ou est un substitut au principe ? L'argent est-il une maladie transmissible ? Peut-on, lorsque l'on a plus d'argent qu'il n'en faut, vivre dans un principe de quiétude ? Je pose les questions. Par principe, je vous répondrai que l'argent lui-même est un principe actif, une cause perdue de l'humanité, une faiblesse dans la cuirasse de l'être humain, un trou dans sa couche de flouze, une couche en papier filigrané, très résistante aux attaques du temps passé, présent et futur, un capital sans âge qui se moque des usages et des gens, un pouvoir fabriqué pour préfabriquer les consciences, une colossale colonne telle une tour de Babel qui prétend conduire au grand capital et sauver la tête de ce fœtus royal, l'être humain.
C'est tout?
Et là, je fais une pause. Non, j'ai pas fini.
Ah bon, bah, je me disais aussi, c'est un peu court là, il faut développer un peu.
Ce fœtus royal, l'être humain. Si Achille avait son talon, nous autres avons notre pognon. Et souvent, il suffit de frapper là où ça fait mal pour ébranler le colosse. Faire tomber le rideau des illusions, alors le principe en principe est de n'en avoir sur l'avoir aucun de principe. Hein, si je me fais bien comprendre.
Oui, oui,
donc je dirais qu'en substance, et pour prendre le problème à l'envers, que ceux qui ont beaucoup d'argent n'avaient déjà pas de principe, mis à part celui d'en gagner de l'argent. Et que ceux qui n'en ont pas à son contact les perdent, leurs principes. Toute exception gardée, pour confirmer la règle, bien entendu.
Eh bien, écoutez, j'adhère au principe philosophique.
J'adhère au principe. Allez, à Libère Armand Guédon.
Je vais faire rapide.
Hein. Accrochez-vous au guédon.
On vous ouïe fort. Allez.
La tête dans le guédon. Hein.
On vous ouïe.
Alors, tout d'abord, que veut dire avoir des principes ?
Voilà, oui.
Avoir des principes, c'est avoir des règles de conduite, une morale. Et ces règles de conduite, de morale irréprochable, convenable, qu'on se doit d'assumer, sont celles imposées par la société ou par votre propre philosophie de la vie. Je pense donc que l'argent a les principes de la moralité que chacun lui donne. Il me semble que l'argent, comme l'alcool ou la drogue, à trop forte quantité, nous désinhibe de notre contrat moral avec la communauté et laisse libre cours à nos inclinations morales intimes et naturelles. Le trop-plein d'argent ne nous supprime pas nos principes.
Oh là,
le trop-plein d'argent ne nous supprime pas nos principes. Il nous révèle ce qui nous sont véritables, ceux qui peuvent être les mêmes qu'on avait avant d'être riches et qui étaient sincères, ou d'autres, ceux que nous enfouissions au regard de la communauté dans laquelle nous vivions. Il est vrai que l'argent a une influence sur notre conduite morale. Par exemple, un ouvrier qui sera fier de l'argent qu'il a gagné à la sueur de son front, le jour où il devient patron, sera fier de l'argent qu'il a gagné à la sueur du front des autres. L'argent à profusion fait-il le bonheur de ceux qui ont plus de bourse que de cœur ? Pour finir, je dirais, et je le crois comme je le pense, que l'argent peut, dans une réalité qui nous appartient à nous humains, de bâtir, être le principal principe de nos principes moraux. Mais pour cela, il faut que l'humanité, pour qu'elle survive, investisse dans l'unique monnaie qui lui convienne. Et cette unique monnaie, c'est l'amour. Car l'amour, c'est l'argent du cœur.
Bien.
Et je terminerai par cette phrase quelque peu naïve, parce que je crois qu'il est nécessaire, quand on parle d'argent, qu'il est de revenir au principe fondamental philosophique de la vie. Parler d'amour, même naïvement, vaut mieux que de parler sérieusement d'argent ou de guerre, comme aujourd'hui. Donc voilà, l'amour, c'est l'argent du cœur. Investissons dans cet argent.
Alors là, je suis épaté.
Et épaté de quoi ?
De campagne.
Ah oui, à moi, c'est déjà
parce
la campagne.
Que là, là, franchement, à Libère...
Merci, ça fait 19 émissions que je fais avec vous. C'est aujourd'hui que vous êtes épaté. Merci.
Je vois que tout le monde est bouche bée, là.
Oui, bah, écoutez, après l'émission, on fera passer un chapeau.
On pensait pas que, en parlant d'argent, on parlerait d'amour.
Mais oui, on arrive, la philosophie nous emmène...
C'est une belle fin.
La philosophie nous emmène à des...
Oui, bon, d'accord, on a compris. N'essayez pas
si.
Sortir de votre texte, c'est bon comme ça.
Elle nous emmène à des conclusions qui peut être surprenantes.
Ouais,
c'est
oui.
Vrai.
C'est le principe de la philosophie, de trouver l'espoir dans quel que soit le sujet grave à aborder.
Exactement, c'est une belle fin. Alors, il nous reste 5 minutes. La petite fée clochette qui dit 5 minutes. Alors, petite question subsidiaire. Rapide.
Le temps, c'est de l'argent.
On dit que l'argent n'a pas d'odeur, mais à partir d'un million, il commence à se faire sentir. Est-ce que c'est vrai?
Eh bien, écoutez, j'avoue que oui.
Bon, bah, c'est bien. Bonne réponse, monsieur Alibert, moi,
donc. Je dirais que l'argent, c'est comme la merde.
Non, c'est...
Si, c'est un des jeux.
Oui.
Alors, on est à la radio, je vais effacer le mot merde.
Non, c'est comme les excréments. Si, c'est dans le dictionnaire.
Imaginez l'argent, vous avez une grosse merde là, vous mettez un litre ou même 5 litres de le Chanel 5 dessus, ça sentira le parfum, ça sentira le Chanel 5, mais ça sera toujours de la merde.
D'accord.
Et l'argent, c'est comme ça. Vous voyez, on peut mettre du... l'argent n'a pas d'odeur, mais métaphoriquement, si vous mettez... façon vous l'employez, ça a toujours une odeur...
Je vais mettre mon petit grain de sel quand même.
Ça a l'odeur de ce que vous en faites. Voilà. Si vous servez de l'argent pour faire le bien, sera l'odeur des roses, sera l'odeur de la bonté.
Parce que je vois qu'il y a une petite lacune quand même, l'argent n'a pas d'odeur, ça vient quand même de...
De Vespasien.
L'empereur Vespasien
qui a inventé...
Ah, mais je ne savais pas. Alors là, vous m'apprenez quelque chose.
Qui avait mis un impôt sur les Vespasiennes. Il avait besoin d'argent, donc les gens allaient pisser. Et il payait pour aller...
C'est incroyable.
C'est pour ça que l'argent n'a pas d'odeur.
Et ils ont vite retiré l'impôt sur l'urine, parce qu'à mettre un impôt sur l'urine, l'État s'est vite retrouvé dans la merde.
Les
gens étaient...
Je ne sais pas comment on en est arrivé là, dans ce débat, mais enfin...
C'est historique. C'est historique.
Alors, votre grain de sel, monsieur Baudricot.
Ah, c'était ça, moi. J'ai parlé de Vespasien.
D'accord.
C'était
d'accord. Vespasien.
Allez, vous avez un petit commentaire quand même.
Alors, une petite histoire.
Je ne vais pas vous interrompre parce que je ne sais pas comment taire vos commentaires.
Non, mais vous inquiétez pas. Elle est très courte. Ce sont deux juifs qui sont au bord de la mer. Et puis, alors, comme ça, il y en a un qui dort et l'autre qui se réveille et qui dit. Samuel, la mer elle monte et l'autre il répond achète. Voilà. Oh, c'est formidable.
Question d'argent.
Bon.
Oui, on aurait pu dire de banquier. Hein.
On va conclure là-dessus.
Oui, bien sûr, concluons.
Alors, merci encore à Mohamed et Véronique du Lanzari Book de Meaux pour nous avoir accueillis. Merci au public qui était là nombreux.
Merci à tous.
Merci au public.
Et à toutes.
Oui.
Et on se retrouve le mois prochain pour une 19e émission.
Oui, et merci Monsieur Pèze.
Merci Monsieur Guédon.
Merci d'être venu.
Beaucoup de Pèze aujourd'hui avec vos tirades.
Vous vous souvenez des petits bonbons, là, bonbons
Pèze.
Pèze, hein,
oui.
Oh, si j'avais investi là-dedans.
Vous auriez gagné.
Riche.
C'est bon ?
C'est le Pèze qui ramasse du fric.
Allez. Rire. Une émission philosophique où ceux qui ne savent rien en savent toujours autant que ceux qui n'en savent pas plus qu'eux.